Bonjour à toutes et à tous, Boker Tov. Israël aurait informé les États-Unis des plans iraniens d'assassiner le président Trump au retour de son voyage en Turquie. Les discussions entre Israël et le Liban avancent dans la bonne direction selon la diplomatie américaine.
Un jeune touriste français juif a été agressé à 2 reprises dans le centre de Rome, vraisemblablement en raison du port de sa kippa. Et enfin, ce 12 août 2026, le soleil va disparaître temporairement. C'est la fameuse éclipse que vont vivre la Belgique et l'Europe ce soir. Israël aurait informé les États-Unis des plans iraniens d'assassiner le président Donald Trump au retour de son voyage en Turquie.
Selon le Wall Street Journal, qui cite un haut responsable américain, les services de renseignement israéliens ont indiqué que l'Iran projetait d'utiliser des missiles solaires portatifs dans le but d'abattre l'avion du président américain. Des hauts conseillers de Donald Trump, dont le secrétaire d'État Marco Rubio, étaient restés à bord de l'avion malgré la menace. Le mois dernier, le grand média américain avait déjà signalé que les services de renseignement israéliens avaient rendu compte d'un complot visant à assassiner le président américain sans fournir aucun détail supplémentaire. Selon le Washington Post, Donald Trump aurait quitté secrètement l'avion présidentiel avant son décollage, puis aurait été transféré à bord d'un camion de restauration vers un appareil militaire. Air Force One aurait ensuite décollé sans lui servant de leurre. Mardi, le président américain a confirmé « Je suis sous la protection des services secrets et de l'armée. Il voulait que je prenne un autre vol, un autre avion. Je fais ce qu'il me dit. Je suppose qu'il y avait une menace quelque part. Je n'ai pas vraiment cherché à en savoir plus. Je reçois beaucoup de menaces », a-t-il conclu, estimant qu'Air Force One présentait un risque plus élevé d'être pris pour cible. Le détroit d'Ormuz restera fermé tant que les États-Unis n'accepteront pas nos conditions, assure le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, cité par l'agence Tasnim.
Selon lui, Washington doit notamment mettre fin à la guerre, y compris à Gaza et au Liban, débloquer les avoirs iraniens gelés et satisfaire les autres exigences de Téhéran. Le secrétaire iranien a ajouté qu'un éventuel accord entre l'Iran et Oman sur le détroit ne garantirait pas à lui seul sa réouverture. Dans ce contexte, le ministre pakistanais de l'Intérieur a rencontré hier le ministre iranien des Affaires étrangères et le ministre pakistanais de la Défense assurait hier que les États-Unis et l'Iran étaient proches de parvenir à une forme d'arrangement.
Donald Trump, de son côté, est nettement moins positif. Il affirme que les États-Unis ont désormais le contrôle total, je cite, du détroit d'Ormuz.
Ils n'ont aucun contrôle. Peut-être qu'à un moment donné, ils feront quelque chose et seront bombardés, a averti Donald Trump. Selon lui, l'Iran, qu'il a décrit comme le tyran du Moyen-Orient pendant 50 ans, ne se trouve désormais plus du tout dans la même position. Il menace l'Iran d'une riposte sévère. Il a déclaré ne pas faire confiance à Téhéran, les accusant d'avoir constamment menti.
L'Iran aurait progressivement perfectionné ses attaques contre les bases américaines du Moyen-Orient, tout en cherchant à épuiser les défenses aériennes de Washington.
Oui, et c'est selon le New York Times que Téhéran a multiplié les vagues de drones et de missiles balistiques, notamment en Jordanie. Certaines armes auraient été capables de modifier leur trajectoire pour compliquer leur interception et contraindre les États-Unis à utiliser leurs précieux missiles Patriot. Cette stratégie a fini par produire des résultats. Les réserves américaines sont fortement réduites. D'après une estimation confirmée à Reuters, les États-Unis auraient consommé 65% de leurs missiles Patriot entre février et juillet. La situation peut être également préoccupante pour certaines armes offensives comme les missiles sol-sol. Donald Trump assure pourtant que les États-Unis disposent encore de réserves largement suffisantes et que les industriels de la défense américaine accélèrent leur production. Cette consommation pourrait limiter les capacités militaires américaines sur d'autres théâtres du monde. C'est pour ça qu'on vous pose comme question du jour pour demain. La Chine et la Russie vont-elles profiter du manque de missiles américains pour lancer d'autres attaques ? L'ancien chef du Mossad, Yossi Cohen, assure avoir visité à plusieurs reprises le site nucléaire iranien de Fordo.
Nous avons visité le site nucléaire de Fordo à plusieurs reprises afin de mieux le comprendre, a-t-il déclaré lors du forum de Galilée organisé dans la ville de Safed, dans le nord d'Israël, sans préciser les dates des visites ni les personnes qui les ont effectuées. Son bombardement par les Américains a été l'accomplissement de mes rêves, a ajouté Yossi Cohen, qui a indiqué dans le même temps que l'uranium enrichi à 60% encore détenu par le régime iranien s'avérerait selon lui encore insuffisant pour pouvoir fabriquer la bombe atomique.
L'accord en 15 points de désarmement du Hamas prévoit d'éponger une partie des dettes du mouvement islamiste palestinien.
Oui, selon la chaîne publique israélienne Kan, le Conseil de la paix se serait engagé à payer les dettes du Hamas à hauteur de 400 millions de dollars. Le libellé du paragraphe 5 de l'accord stipule que les fonds seront transférés aux fournisseurs et aux titulaires de contrats. Une source au sein du Conseil de la paix a indiqué que l'argent sera versé aux employés du secteur public qui n'ont pas encore été payés, aux fournisseurs et entrepreneurs ayant rendu des services à la population. Le Conseil pour la paix assure aussi que chaque demande de paiement sera examinée individuellement et que cet engagement ne vise pas à blanchir la corruption du Hamas, d'autres malversations financières liées à son règne à Gaza ou tout ce qui est lié aux actes de terrorisme et d'oppression commis par l'organisation terroriste. Fin de citation.
Les discussions entre Israël et le Liban avancent dans la bonne direction selon la diplomatie américaine.
Selon un porte-parole du département d'État américain, les trois jours de pourparlers qui se sont déroulés la semaine dernière à Rome ont été constructifs et ont permis aux différentes parties de parvenir à un accord sur les paramètres à respecter pour vérifier qu'une zone pilote a été réellement débarrassée de la présence du Hezbollah. Malgré les opérations sporadiques menées ces derniers jours par Tsahal au sud Liban contre les terroristes du Hezbollah, notamment sur le site de la crête Al-Itaher, le département d'État américain note que les deux parties sont parvenues à une désescalade en moins de 24 heures grâce à une cellule de déconfliction militaire trilatérale mise en place plus tôt par les États-Unis, Israël et le Liban lors de leurs négociations. Lors de la prochaine série de discussions techniques, le Liban présentera des feuilles de route détaillées pour sécuriser de nouvelles zones à mesure que la mise en œuvre progresse dans les zones pilotes actuelles, a déclaré le porte-parole du département d'État, qui indique par ailleurs que les deux parties sont confrontées à des contraintes politiques. Nous les surmontons méthodiquement car les raccourcis ne font que reproduire les échecs que nous constatons depuis des décennies. La dynamique reste positive et personne ne freine la mise en œuvre, souligne le porte-parole des bureaux de la diplomatie à Washington. Un jeune touriste français de confession juive a été agressé à deux reprises dans le centre de Rome, vraisemblablement en raison du port de sa kippa.
Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a fermement condamné une attaque antisémite et exprimé sa solidarité avec la victime et l'ensemble de la communauté juive. « Nous ne pouvons pas accepter que l'antisémitisme et la haine des juifs trouvent leur place dans nos villes et notre société », a-t-il écrit sur X. La première attaque aurait eu lieu vendredi. Un individu aurait aspergé le jeune homme de gaz poivre alors qu'il circulait dans la capitale italienne. Le lendemain, il aurait de nouveau croisé le même homme, cette fois accompagné de trois autres personnes. Et il l'aurait roué de coups en pleine rue. Les autorités italiennes auraient identifié comme principal suspect un ressortissant algérien de 31 ans sans domicile fixe. La police n'a toutefois pas communiqué officiellement sur l'enquête.
Méfiance croissante au Royaume-Uni contre les Israéliens. Selon un sondage YouGov réalisé par le Times, 47% des Britanniques souhaitent voir diminuer le nombre d'Israéliens admis dans le pays.
23% demandent une réduction des arrivées et 24% ne veulent plus aucune immigration en provenance d'Israël. Israël figure donc en quatrième position parmi les nationalités les moins bien accueillies au Royaume-Uni, après la Russie, le Pakistan et le Nigeria. La tendance s'est nettement durcie en 10 ans, 8 points de plus. Les réticences les plus fortes se trouvent parmi les sympathisants du Parti travailliste et des Verts. Les électeurs libéraux-démocrates sont les moins opposés à l'immigration israélienne.
Au lendemain du puissant séisme qui a frappé la Colombie et fait plus de 220 morts, la communauté juive de Cali aussi a été touchée par la catastrophe.
La synagogue elle-même a été endommagée, un mur s'est effondré sur son toit, tandis que des plafonds ont été arrachés dans certaines pièces. La maison juive qui remplit à Cali un rôle comparable à celui d'un centre communautaire ou d'un Beit Rabban s'est rapidement transformée en point d'aide pour les sinistrés. Depuis le séisme, ses équipes distribuent de la nourriture et de l'eau et aident tous les gens qui en ont besoin, bien entendu, y compris les habitants non juifs de Cali. En Colombie toujours, le premier ministre israélien remercie ce pays pour sa décision de reconnaître la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan.
Vous souvenez-vous de l'expression « le peuple du Golan » Aujourd'hui, ce peuple est solidaire de la Colombie car le président colombien, notre ami, a reconnu la souveraineté d'Israël sur le Golan. Je vous remercie, monsieur le président, a déclaré Benjamin Netanyahou dans une vidéo enregistrée depuis ses bureaux de Jérusalem. Dans cette même allocution, le chef du gouvernement israélien a tenu à répéter l'importance stratégique du plateau du Golan pour l'État d'Israël. Le plateau du Golan, c'est la mer de Galilée, c'est le Golan, c'est la Syrie, c'est le Liban. Ce lieu est essentiel à notre sécurité. Le drapeau d'Israël flotte ici et continuera de flotter car c'est notre pays. Mais aujourd'hui, ce territoire nous appartient. Il nous appartient de nouveau, il nous appartiendra toujours, a indiqué le chef du gouvernement israélien. Les autorités syriennes ont par ailleurs condamné la décision prise par la diplomatie colombienne.
Le Venezuela renouvelle ses relations consulaires avec Israël.
Ont convenu ensemble le ministre des Affaires étrangères Guy Densart et son homologue vénézuélien Félix Plasencia. Les séries de négociations menées ces dernières semaines ont abouti à un accord visant à établir un mécanisme de coordination qui permettra la prestation de services consulaires aux citoyens des deux pays, ont indiqué les bureaux de la diplomatie à Jérusalem. Les deux pays ont convenu aussi de poursuivre leur coopération en matière d'intervention d'urgence et d'efforts de reconstruction après le double séisme meurtrier qui a frappé le Venezuela au mois de juin dernier. Le Venezuela a rompu, on s'en souvient, ses relations diplomatiques avec Israël sous la présidence d'Hugo Chavez. C'était en 2009. Guy Densart a décrété 2026 année centrale pour le développement des relations entre Israël et l'Amérique du Sud. Il était en Colombie et en Équateur la semaine dernière, un important sujet stratégique pour limiter l'influence iranienne dans la région.
L'ambassadeur israélien auprès des Nations Unies, Danny Dannon, a défendu ce matin, la présence israélienne en Judée-Samarie lors d'une réunion du Conseil de sécurité. Les implantations juives en Judée-Samarie resteront et ce développement, a-t-il déclaré, le Conseil de sécurité doit intégrer cela, nous n'irons nulle part. L'inquiétude grandit sur la disparition d'une mère israélienne et de sa fille en Autriche.
L'ambassade d'Israël à Vienne a lancé mardi un appel au public après avoir perdu tout contact avec deux ressortissantes israéliennes, Mali et Lialia Alomi, mère et sa fille, portées disparues depuis vendredi. Le ministère israélien des Affaires étrangères a indiqué que les deux femmes n'avaient plus donné signe de vie depuis plusieurs jours. Dans un message publié sur Facebook, l'ambassade leur a demandé si elles étaient en mesure de le faire, de contacter immédiatement leur famille, sa ligne d'urgence ou la police autrichienne. Toute personne disposant d'informations susceptible d'aider à les localiser est également invitée à se manifester. Les bureaux de la diplomatie à Jérusalem écartent pour le moment la piste de l'incident sécuritaire ou celui de l'enlèvement. Cette disparition intervient quelques mois après un incident impliquant un autre ressortissant israélien, toujours à vie.
Un mot de politique à présent. Deux députés du Likoud menacent de se retirer de la course aux primaires pour protester contre les places réservées au Premier ministre Benjamin Netanyahou.
Selon la chaîne israélienne Kan, les députés dont les noms n'ont pas filtré seraient furieux de la décision de Benjamin Netanyahou de garantir des places sur la liste de la Knesset du parti au ministre de la Défense Israël Katz, au chef de la diplomatie Guy Densart et au président du comité central du Likoud Chaim Katz. En outre, la chaîne N12 a révélé hier soir que l'actuel ministre de l'économie Nir Barkat avait fomenté un putsch visant à destituer Benjamin Netanyahou de son poste de chef du gouvernement de l'État d'Israël juste après le 7 octobre. Toujours selon la chaîne israélienne, la nomination par le Premier ministre Netanyahou de l'homme d'affaires Oron Dobronsky à la 11e place de la liste Likoud aurait pour but d'affaiblir la candidature de Nir Barkat lors du prochain scrutin interne au sein du parti de droite.
Gilad Erdan et Yuli Edelstein révèlent le nom de leur nouveau parti en vue des élections.
Ardout, c'est le nom de cette nouvelle formation qui se veut être un vrai parti de droite, le parti de l'enrôlement des élèves des établissements talmudiques orthodoxes selon son slogan. Nous ne l'avons pas appelé ainsi parce que nous sommes d'accord sur tout, mais parce que nous n'avons pas d'autre choix, a expliqué Gilad Erdan, qui place notamment au cœur de son projet le service militaire pour tous et la responsabilité collective. La formation se présente comme un parti de droite et entend défendre la création d'un gouvernement sioniste large plutôt qu'une coalition étroite reposant sur un seul bloc. L'ex-ministre de la Sécurité intérieure affirme également son opposition à la création d'un État palestinien. La canicule est de retour en Belgique avec une question qui taraude l'échiquier politique. La chaleur permettra-t-il à Ecolo de surmonter sa crise et de retrouver des électeurs?
Les vagues de chaleur, la sécheresse et les incendies qui frappent l'Europe replacent l'urgence environnementale au premier plan. Ecolo avait largement perdu les élections de 2024. Le parti doit surmonter plusieurs obstacles, notamment une crise interne avec des nouveaux coprésidents qui doivent restaurer l'unité du mouvement et mieux incarner son message dans les médias. Deuxième difficulté, le discours alarmiste ne fonctionne plus. Les Verts devront donc trouver des solutions concrètes et montrer que la transition écologique peut améliorer la vie quotidienne. Écolo devra aussi répondre aux attaques de ses adversaires, notamment sur son opposition historique au nucléaire. Bref, cet été brûlant donne aux écologistes une véritable occasion de revenir dans le débat, mais ils devront convaincre que leurs réponses sont réalistes et économiquement supportables.
Le 12 août 2026, le soleil va disparaître. Temporairement, bien sûr, c'est la fameuse éclipse que vont vivre la Belgique et l'Europe ce soir.
Elle sera visible à partir de 19h19 avec un maximum attendu à 20h13 avant de s'achever peu après le coucher du soleil. Pour profiter au mieux du spectacle, les zones rurales ou le littoral seront particulièrement favorables. Il faudra impérativement porter des lunettes conformes à la norme ISO 2015, les seules qui puissent protéger les rétines des ultraviolets. On est revenu sur ce sujet à 7h30 avec un spécialiste, l'opticien Laurent, qu'on remercie. Et un mot de sport pour finir. L'Hapoël Beersheva se qualifie pour le barrage de la Ligue des Champions.
Le champion d'Israël n'est plus qu'à 2 matchs de la première qualification de son histoire pour la Ligue des Champions. Les hommes de Ran Kozour ont réalisé une performance majeure en s'imposant hier soir 2-0 sur le terrain de l'Étoile Rouge de Belgrade, validant son billet pour les barrages avec un score cumulé de 3-0 à la 61e minute. Une offensive collective bien menée s'est conclue par une passe de Javon Hiss pour Igor Zlatanovic qui a ouvert le score. Le deuxième but est intervenu à la 79e minute où Eliel Peretz a trouvé Javon East dans la surface et l'attaquant jamaïcain a doublé la mise d'une reprise du pied gauche. Au prochain tour, les Rouges de Beersheba affronteront les Azeris du Sabah FK.
Et enfin, on change de sport, l'Hapoël Tel Aviv proche de signer une immense star de la NBA.
Selon plusieurs informations venues des États-Unis, Russell Westbrook est en discussion avancée avec l'Hapoël Tel Aviv qui cherche à réaliser à coup sûr l'un des transferts les plus retentissants de l'histoire du basket israélien, voire européen. Le journaliste Mark Jacobs a indiqué sur le réseau social X que les négociations entre les deux parties avancent vite. Si un accord venait à être conclu, le meneur de 37 ans, ancien MVP tout de même de la NBA, évoluerait pour la première fois de sa carrière dans un club situé hors des États-Unis. The Athletics avait déjà rapporté que Russell Westbrook envisageait sérieusement de quitter la NBA pour tenter une première expérience à l'étranger.